Le bel âge, das schöne Alter. Un podcast présenté par la résidence Solac.
Bonjour tout le monde, un tout petit peu de retard pour ce tête-à-tête, pour cet nouvel épisode. Et oui, c'est l'été, les festivals, les vacances, mais je ne vous ai pas oublié, bien sûr.
Es tête-à-tête mit
Claudine Allemande. 89 ans, originaire de La Chaux-de-Fonds, une très sympathique, très gentille petite dame qui avait plein de choses à me raconter. Sur son enfance, sa vie et surtout sur sa meilleure amie qu'elle a rencontrée le jour de son arrivée à la résidence au lac. Une belle histoire d'amitié dont nous allons parler, mais tout d'abord, quel est le premier souvenir de votre enfance, Claudine Allemand ?
À mon enfance ? J'étais seul enfant de toute la famille. J'avais ni frère ni sœur, donc j'ai été élevée au milieu d'un couple de grands-parents âgés, parce que ma grand-mère est décédée, elle avait 94 ans. Et puis, mes parents n'ont pas eu d'autres enfants. Et puis là, j'avais le privilège, aux fêtes de Noël ou de Nouvel An, où on se retrouvait tous autour de mes grands-parents, de pouvoir tourner la manivelle du gramophone. Parce qu'il n'y avait pas d'autres enfants pour vouloir le faire. Alors, c'était parmi mes premiers souvenirs.
Donc, une enfance avec peu d'enfants et beaucoup d'adultes?
On peut dire quasi pas d'enfants.
Vous avez grandi chez vos grands-parents et pas
non,
chez vos parents?
Chez mes parents, mais on habitait, c'était un bloc de trois maisons. Et puis, il y avait trois entrées, on en entrait à une, puis la troisième, c'était chez mes grands-parents.
Ah,
mais c'était une maison, à chaque fois trois appartements par maison. Mais là, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, c'était aussi des familles avec un ou deux enfants maximum. Je crois même qu'il n'y en avait pas deux. J'ai vraiment ce souvenir... Quand on allait chez les grands-parents pour les fêtes.
Et vous pensez que ça vous a manqué de ne pas avoir de frères et sœurs ou de ne pas avoir beaucoup d'enfants autour de vous?
Oui, ça m'a manqué. Parce que plus tard, quand je suis allée à l'école, j'ai osé amener à la maison une copine de classe parce qu'elle avait aussi ce genre de vie. Elle avait une maman qui travaillait, elle, à domicile. Alors, il ne fallait pas qu'elle soit dérangée. Alors, les deux, on osait être ensemble. Et puis, le réciproque. Mais c'était la seule amie qu'on osait avoir l'une ou l'autre.
D'accord. Donc, vos parents, ils n'aimaient pas trop avoir trop d'enfants autour d'eux?
Non.
Non. Non. Est-ce que dans votre vie, après, vous avez remarqué, vous aviez beaucoup d'amis d'un même âge ou toujours un peu... Est-ce que c'est un peu resté, peut-être, que vous aviez des gens autour de vous qui sont plus âgés que vous?
J'ai eu les camarades de classe. J'ai fait l'école de commerce, La Chaux-de-Fonds, mais c'était des camarades qui se rencontraient à l'école. Ils venaient pas chez moi non plus, sauf pour une fête de classe que ma maman m'avait autorisée organisé à la maison, parce que là, on avait construit une petite maison familiale. Puis là, elle avait même fait le repas.
Ah.
Alors qu'elle n'aimait pas du tout cuisiner.
Elle s'est dépassée pour vous.
Oui. Oui. Mais j'ai tout de suite été mise au fourneau. En général, le dimanche, c'est moi qui faisais un dîner.
Ah, parce qu'elle n'aimait pas, elle, faire la cuisine.
Elle n'aimait pas, non. Par contre, alors, elle nous a un petit peu, entre guillemets, empoisonné la vie par les nettoyages.
Oh.
Où là, en plus, on n'osait plus bouger, mon père et moi.
Oh là là, elle était un peu sévère, votre maman.
Oui, elle était sévère.
Un peu trop?
Un petit peu.
Oui.
Parce qu'elle avait l'occasion de partir en vacances avec la famille. Et mon père, il était horloger complet dans une grande maison d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. Mm-hmm. Il faisait encore des rhabillages à la maison le soir. Et puis pendant que ma mère était en vacances ou était absente pour une autre question, il était collectionneur de timbres, il était philatéliste. Et puis, il faisait aussi des émaux, des broches avec de la peinture à les mains. Il était un peu artiste. Mm-hmm. Et puis, il étalait tout sur la table, la cuisine. Et puis, la veille du jour où elle rentrait, puis là, c'était quand j'étais encore à la maison, et on s'est aidé pour ranger les choses. On a enlevé la poussière, etc.
Il fallait tout ranger avant qu'elle rentre.
Oui, comme ça. Mais il était vraiment très heureux de cette période. Et moi aussi, oui. On respirait un peu mieux.
Mais vous diriez que vous aviez quand même une bonne relation avec votre maman?
Oui, quand même. Oui, mais je devais obéir. Mm-hmm. Mais ça, je n'avais pas de... disons, de mal à obéir.
Quand même une enfance heureuse.
Oui, quand même.
Même si vous y étiez beaucoup seule et puis avec une maman un peu sévère.
Mais par contre, j'aimais quand même beaucoup lire. Puis la cuisine m'intéressait.
Tant mieux s'il fallait la faire.
Mais c'est peut-être ça aussi qui m'a donné le goût.
Uh-huh. Ah, vous avez continué à faire beaucoup de cuisine?
Oui, après, oui, j'ai pas mal cuisiné. Et ma fille aussi. Ah. Et puis, vraiment, c'était quand même une bonne ambiance.
Oui.
Mais il fallait savoir quelles limites il ne fallait pas dépasser.
C'était un peu elle, la chef.
Oui. Ah oui, c'était la chef de tout le monde.
Et votre papa, vous étiez plus proche de lui?
Ah oui, vraiment. Mm-hmm. D'ailleurs, quand j'avais une professeure qui était notre professeur de français, d'anglais et d'histoire, qui nous enseignait. C'était une personne qui habitait avec sa maman dans une maison voisine de notre maison familiale. Donc je la voyais, on faisait souvent le chemin ensemble. Et je me suis aussi vite eu une belle amitié avec elle, parce qu'elle est tombée malade, elle a dû renoncer pendant une année à venir enseigner dans notre classe. Elle était à Lézin parce qu'elle avait une tuberculose. Alors, je me suis un petit peu occupée de la maman aussi, en lui rendant visite. Mm-hmm. Et puis, chaque semaine, j'écrivais pour la classe le compte-rendu de l'évolution de la classe. Et puis elle, après, elle était encore jeune, et puis elle a perdu sa maman pendant cette période-là. Après, quand elle était de nouveau en bonne santé, elle m'a emmenée avec elle à Paris, en Bourgogne. On a visité tous ces monuments, etc., dont elle connaissait l'histoire. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance à moi. Et elle m'emmenait au concert auquel elle était abonnée, ou au théâtre. J'ai eu vraiment une culture générale enrichie par elle. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. Elle est décédée, elle avait 45 ans, je crois. Oh.
Donc, c'était un peu comme une...
Un peu une maman.
Oui, une maman un peu. Mm-hmm.
Et puis, vraiment, mes parents ont eu aussi de la chance parce qu'ils ont jamais eu un sou à débourser. C'était un peu comme, vraiment comme sa fille. Alors, pour en revenir à mon père, elle me disait toujours, quand on regardait des photos, « Quand tu souris, tu ressembles à ton père. » Puis quand tu es plus sérieuse, c'est ta maman.
Alors donc, l'enfance à la Chaux-de-Fonds, la jeunesse aussi?
Oui, j'avais 22 ans, je pense, quand je suis venue à Bienne. Mais je me suis mariée une première fois. Mais c'était un petit peu pour échapper de la maison.
Racontez-moi ça.
L'école de commerce avait organisé pour la saison d'hiver un cours de danse à la Chaux-de-Fonds dans un studio de danse. Et puis là, j'y ai rencontré mon premier mari. C'était aussi le premier garçon avec qui je sortais. Lui, il était le fils aîné de 4 garçons. Il venait de l'oncle. Il était beau garçon, un peu charmeur. On s'est mariés assez rapidement.
Vous aviez quel âge?
Je devais avoir 21 ans, d'accord, je pense. Et puis, là, ça a été un petit peu le désenchantement, parce qu'en 5 ans de mariage, on a déménagé 8 fois. Il n'était pas stable dans son travail. Il n'était jamais content, etc. Puis ce qui comptait surtout, c'était aussi d'aller boire des verres avec les copains en sortant du travail. C'était pas mon genre. Mm-hmm. Mais il était gentil garçon. C'est allé comme ça la fois où il a voulu. On a déménagé ici à Bienne parce qu'il avait trouvé une 1e place ici à Bienne. Ben, il voulait de nouveau redéménager, changer encore à une autre place, retourner à la Chaux-de-Fonds. Et moi, ici, j'avais trouvé une très bonne place en tant que secrétaire. Et puis, moi, je ne voulais plus partir. Il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait pas de problème pour moi. J'étais trop bien ici.
Donc, vous êtes divorcée?
Oui, on s'est divorcée assez rapidement.
C'était quand même assez spécial à cette époque, où il y en avait déjà plusieurs gens divorcés.
J'ai pas tellement de contact avec, à part les personnes dont je vous ai parlé. Mm-hmm. Mais j'avais quand même aussi des camarades d'école qui étaient déjà mariés. Mais c'est vrai, je sais pas, dans le fond.
Mais peut-être que c'était pas mal, comme ça vous vous êtes pas trop fait de soucis de... Qu'est-ce qu'en pensent les autres, en fait?
Ah oui, non, oui. Pas du tout, pas alors. Pas du tout. Ben, je me suis retrouvée à Bienne. Et puis là, j'ai aussi connu mon deuxième mari, qui était comptable dans la maison où je travaillais. C'était une manufacture de montres aussi. Et puis on s'est mariés. On a été mariés 52 ans. Il avait 82 ans quand il est décédé. Et puis on a eu 2 enfants. Et puis lui, il était stable. Il vivait avec sa maman à l'époque parce qu'il avait perdu son père quand il avait 14 ans déjà. Puis il était un peu élevé par 3 sœurs qui l'élevaient puis qui ont un peu dit... C'est toi le chef de la famille. Et puis il a un petit peu fait le chef de la famille après aussi. Mais bon, je suis quand même assez souple. Puis j'étais habituée. Ma fille, elle me dit toujours, moi, j'aurais pas pu.
Parce que...
C'était... Ce qu'il décidait, il l'avait décidé.
C'était un peu comme votre mère.
Oui, un petit peu, mais...
C'est ça, vous aviez l'habitude, c'est ça que vous voulez dire. Et puis, est-ce que ces 3 sœurs et la mère, elles étaient aussi encore présentes dans votre mariage?
Non, pas du tout.
Au moins
la mère, oui.
Oui, un peu.
Quand même. Parce que s'il y avait une mouche ou un papillon à la cuisine dans chez elle, elle téléphonait jusqu'à ce que mon mari aille pour le chasser ou le tuer.
Donc, assez présente, quand même.
Oui, quand même. Oui, mais c'était quand même pas chaque jour.
Et votre mari et votre vie de famille, avec donc vous, mère de 2 enfants, vous étiez quoi comme maman?
Comme maman, j'étais quand même assez sévère, mais pas du genre de ma maman. Mm-hmm. On a eu un fils, enfin, on l'a toujours, qui était atteint de surdité. J'ai beaucoup suivi. Il fallait aller pour apprendre à parler
à la logopédie.
À la logopédie, oui. Et puis après, il a eu un grave accident de moto. Quand il avait 25 ans, il avait été dit que la circulation osseuse du cœur du fémur ne reprendrait pas. Et qu'à ce moment-là, de toute façon, il avait appris menuisier. Il ne pouvait plus continuer sur ce métier-là. Alors, il a fallu d'abord se battre pour qu'il puisse entrer à l'école, dans une école normale, parce qu'il voulait le mettre avec des handicapés de toutes sortes, pas seulement avec des malentendants. Moi, je me suis battue en disant, j'aimerais qu'il essaye d'aller à l'école avec tout le monde, parce qu'il avait appris à lire sur les lèvres.
Il n'avait pas besoin de la langue des signes.
Non, il ne l'a jamais apprise.
D'accord.
Là, il avait été suivi par un psychologue ici à Bienne. Chaque semaine, il allait là, puis il trouvait qu'il avait une intelligence qui était très développée. Puis qu'on avait raison d'essayer de le mettre dans une classe normale. Puis c'est bien allé, il a fait l'école secondaire, il a doublé une année. Et puis là, il a dû se défendre lui-même aussi, nous aussi avec lui. Parce que, mais dans l'ensemble des professeurs, ça allait. Mais un des professeurs, il avait le plus de difficultés, c'était en allemand. Alors, on avait décidé de lui faire donner des cours particuliers. Mais on a demandé au professeur de donner les exercices qu'il faisait puis qu'il ne réussissait pas pour les travailler avec l'autre professeur. Il a refusé en disant un malentendant n'a rien à faire dans une classe en secondaire. Et puis, mais c'est l'année où il a doublé, mais après ça, il avait une mémoire extraordinaire. Mmh. Il était doué pour l'histoire, tout ce qui était ancien, là, c'était formidable.
Donc il s'est bien débrouillé, même
oui.
S'il a...
Oui. Et puis il est devenu ergot.
Moi, j'aimerais bien parler de votre arrivée à la résidence,
oui,
parce que
beaucoup de choses, hein.
Voilà, justement, on va encore un peu parler, nous prendre un peu quelques minutes pour ça aussi. Parce que vous m'avez dit que le premier jour de votre arrivée, vous avez déjà fait une très belle rencontre.
Ah oui, ça c'était... C'est la rencontre.
La rencontre.
Oui, la rencontre, vraiment. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'une aussi belle façon. Et c'est une personne qui n'avait pas pu avoir d'enfant, qui sortait d'une famille où elles étaient, si je ne me trompe pas, 8 filles puis un garçon, puis son mari, elle avait l'inverse, c'était 8 garçons puis une fille. Je ne suis pas à un chiffre près.
Comment s'est passée votre première rencontre ?
Donc, la porte s'est ouverte.
Le premier jour où vous êtes vraiment allé dans votre appartement ?
Là, c'est le bruit des meubles qui étaient tirés pour le déménagement qui l'ont attiré d'un corridor. Mm-hmm. Elle était, je pense, un petit peu curieuse de voir qui c'est qui arrivait. Alors, cette petite dame, elle avait des cheveux splendides, des cheveux blancs, tout bien coiffés, bien habillés. Puis elle tenait un pot de confiture dans la main. Et puis, j'étais, moi, avec la compagne de mon fils. Elle me dit, oh, tu vois, cette gentille dame, elle vient nous apporter un cadeau de bienvenue. Et c'était pas du tout le cas. Mais elle l'a pas dit ça sur le moment. C'est parce qu'elle était en train de prendre son petit déjeuner. Et puis, elle avait de la peine à ouvrir le couvercle, puis en entendant le bruit, elle s'est dit, il y a sûrement quelqu'un qui pourra m'aider. Mais ça, je lui ai dit un jour, puis elle m'a dit oui. C'est vrai. Mais de toute façon, elle était intéressée de savoir si c'était une dame, si c'était un monsieur qui arrivait, qui parlait français, l'allemand. C'est une Suisse allemande.
Qui s'appelait comment ?
Nelly Fritz. Mm-hmm. Une Suisse allemande, mais qui savait bien le français, elle l'avait appris avec sa grand-mère. Après, elle avait été envoyée dans une famille à 16 ans pour apprendre mieux le français parce qu'elle avait un oncle qui habitait La Chaux-de-Fonds.
D'accord.
Alors ça, c'était un deuxième lien. Mm-hmm. Donc, elle a vécu une année à La Chaux-de-Fonds. Tout de suite, elle a dit qu'elle était contente de pouvoir parler français, que ça lui referait venir du vocabulaire, mm-hmm. etc. Puis elle a été souriante tout le temps. Et puis, très rapidement, elle m'a dit, on se reverra. Puis effectivement, on s'est vu presque chaque jour dans l'ascenseur pour venir manger. C'était avant la pandémie. Et puis cette première année, on s'est vu régulièrement en allant boire un café, l'une chez l'autre, etc. On a bien parlé de nous et de son mari. Elle l'avait perdu une année après que j'ai perdu le mien, de la même maladie, c'est-à-dire du cancer des os. Mm-hmm. Et ils avaient tous les deux beaucoup souffert. Ça, c'était de nouveau un lien supplémentaire. La famille m'avait dit, ils ont toujours regretté que je n'ai jamais connu, tellement c'était un homme gentil.
Donc vous êtes vraiment trouvé à 83 ans une super oui. meilleure amie.
Ah oui, pendant 2 ans, on a soupé ensemble tous les soirs. Et puis, tous les samedis soirs, j'ai couché là, après. Parce qu'elle aimait bien voir quelqu'un le dimanche matin pour déjeuner.
Bien sûr. Et vous aussi. Pour vous, c'était bien aussi, oui.
Même si à la maison, on ne déjeunait pas facilement ensemble.
Donc, vous m'avez dit avant qu'on commence l'interview que c'est vraiment la meilleure amie que vous avez jamais eue.
Ah oui, vraiment. Là, je ne crois pas que ça aurait été possible avec quelqu'un de mon âge. Mm-hmm. Je pense que cette différence d'âge, c'est un atout.
D'accord.
Parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de tabou de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est peut-être pas le bon mot, le mot tabou. Oui, il n'y avait pas de jalousie. Il y avait... C'était tout. Tout était naturel.
Si j'ai bien compris, elle est décédée?
Elle est décédée. Mais entre-temps, il y a eu 2 ans où elle a été au premier étage, aux soins.
Oui.
Et puis elle ne voulait pas y aller parce que son mari avait été avant son décès. Et puis, elle ne voulait pas y aller. Puis elle disait, puis après, on ne sera plus au même étage. Puis j'ai dit, mais écoute, je te promets que je viendrai te voir tous les jours. Parce qu'on avait vu l'exemple d'un monsieur dont la compagne habitait l'appartement que j'ai repris après elle. Et elle était aux soins. Et ce monsieur qui avait un appartement à côté, il allait tous les jours la voir, aussi jusqu'à leur décès. Et puis, effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai été pendant 2 ans tous les matins, tous les jours vers elle, tous les après-midi. Et ça, j'aurais... Mais je le faisais pas seulement pour elle, je le faisais pour moi aussi.
Bien sûr, oui. Puis vous pouviez encore vous parler, elle allait encore bien?
Le dimanche avant... Il y a longtemps qu'on ne s'était pas parlé autant que ce dimanche-là.
Le dimanche avant son décès.
Avant son décès, oui. Elle était beaucoup fatiguée cette semaine-là. On m'avait laissé entendre qu'il faudrait peut-être que... Pas que je reste trop longtemps. Et puis, quand je lui ai dit, écoute, je crois que je devrais aller, on me dit que je te fatigue. Et puis, qui c'est qui a dit ça? Jamais j'ai dit un mot pour ça. Je suis plus fatiguée parce que je dois réfléchir maintenant pour les noms en français. Mm-hmm. Mais par contre, après, je suis toute seule. Mm-hmm. Qu'elle m'avait dit. J'ai dit, mais si toi... Elle me disait, Après, quand j'ai voulu retenir... Arrête, c'est dans ta tête.
Et ça fait combien de temps qu'elle
Alors,
est décédée?
Elle est décédée le 22 mars de l'année dernière.
Mm-hmm. Oui, donc un peu plus qu'une année, une année et demie.
Oui, ça fait une année et demie. Et son... Et j'étais tombée un jour avant. Et... J'ai pas pu rester à côté d'elle. J'étais restée tout l'après-midi, mais je pouvais plus rester assise là. Mais on m'avait pas dit que ce serait là. Et puis comme on avait beaucoup parlé, j'ai pas pensé que c'était si proche.
D'accord. Ça vous a quand même surprise.
Oui. Mm-hmm. Et puis le matin, ils sont venus me dire qu'elle était décédée dans la nuit. Ça, j'ai regretté, vraiment. Mm-hmm. Parce, d'autant plus... que mon mari qui avait tellement souffert, qui était décédé, parce qu'il demandait vraiment, il souffrait tellement qu'il ne pouvait plus supporter, puis qu'il disait, mais donnez-moi quelque chose de plus fort, etc. Et puis que, quand on a su qu'il était décédé, c'était un soulagement pour nous. Et puis là... Elle souffrait pas vraiment. Oui, elle avait mal aux genoux, mais la tête, elle l'avait quand même bien. Puis ça
l'a... Donc, elle avait presque 100 ans.
Elle aurait eu 100 ans le 1er juillet. Ah.
Bon, j'imagine que c'était dur de tout d'un coup se retrouver ici sans avoir cette personne.
Alors, oui. Pour moi, ça a été très pénible.
Mais c'est quand même un immense cadeau d'avoir pu encore... À 83 ans, encore rencontrer une bonne amie comme ça?
Ça, j'aurais jamais supposé que ce soit possible. Mais pour moi, elle est avec moi. Je parle tout le temps avec elle. Je dis des fois, on me prendrait peut-être pour une...
Tant pis.
Mais c'est même le pasteur à Folder qui s'est occupé de la cérémonie à Nido. J'étais allée avec elle plusieurs fois sur la tombe de son mari. Je savais bien où c'était, puis j'ai trouvé que c'était formidable là, au cimetière de Nido. C'est comme un pré ou fleuri. La pelouse avec des fleurs naturelles qui sortent avec une plaque quand même avec le nom. Puis ils avaient prévu l'endroit à côté de son mari. Et puis, je suis aussi allée, c'est ma fille qui m'y a amenée. Et puis le pasteur m'avait dit, mais vous pouvez parler avec. Mais vraiment, c'est une richesse que j'ai en moi là.
Claudine Allemand, qui a maintenant 89 ans et qui a trouvé l'ami de sa vie à la résidence au lac. Magnifique cette histoire, non? Voilà pour ce tête-à-tête. Je vous prépare un prochain interview qui va sortir très bientôt. Mais je dois vous dire que ça va être le dernier pour moi. Après 2 ans, 48 épisodes, plein de rencontres intéressantes, touchantes, instructives et émouvantes, je passe le flambeau à Andrea Schweitzer qui s'occupera du podcast à partir de l'automne. Merci en tout cas pour votre écoute, vos feedbacks et merci de vous intéresser aux histoires humaines de nos aînés, une partie de notre société qui n'est peut-être pas tout à fait assez estimée, je trouve. Pour le dernier épisode, je vais parler au directeur de la résidence au lac, à Mark Kaufmann.